Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Impertinentes, le podcast des femmes qui vivent leur vie comme bon leur semble et tant pis pour les rageux. Les Impertinentes est un podcast de la série Tuto Conquérir le Monde et cette semaine, Tuto Conquérir le Monde apporte son soutien au crowdfunding de Datagueule pour la réalisation d'une série documentaire sur les utopies. Pour en savoir plus, je vous invite à écouter l'épisode d'Activiste numéro 26 qu'Esther et moi avons publié mardi 2 juin. On y a reçu l'équipe de Datagueule pour parler rôle, éthique et devoir des journalistes, et bien sûr, politique. Mais revenons aux impertinentes. L'invité de cette semaine a créé une véritable mafia. C'est comme une mafia, mais pour les meufs. Claire Succo est le nom et la griffe derrière la marque de vêtements Meuf. Si vous connaissez les designs, vous savez qu'on se reconnaît entre nous quand on les porte. Et si vous ne connaissez pas encore la marque Meuf Paris, n'attendez plus. Rencontre avec une chef d'entreprise très exigeante dans l'éthique, très ambitieuse dans le projet qu'elle a créé. Je vous laisse en compagnie de Claire Succo, directrice artistique de Meuf Paris. Bonjour Claire.
Bonjour.
Quand tu étais petite, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu seras grande ?
Alors, quand j'étais petite, je voulais écrire des histoires. Dès que j'ai pu écrire, j'ai voulu écrire. Et j'aimais bien créer, j'aimais bien... je faisais des parfums avec les fleurs. Enfin, j'aimais bien inventer des choses, inventer des histoires. Donc je voulais inventer, voilà. et j'écris toujours, d'ailleurs, mais c'est pas mon métier.
Et comment ça s'exprimait auprès des adultes qui te posaient la question ? Quels sont les adultes qui te posaient la question ? Plutôt les maîtresses, maîtres d'école, des parents, de la famille ? Qu'est-ce que tu exprimais ? Tu disais « je veux créer ». Qu'est-ce que tu disais ?
Honnêtement, j'ai pas trop de souvenirs d'adultes qui me posaient la question. La meuf qui a pas d'adultes. Non, mais vraiment, pour le coup, enfin, moi j'ai été élevée plutôt par mes sœurs que par mes parents. Enfin, je suis pas très proche de mes parents, ils étaient pas très très présents. Et du coup, j'ai pas trop souvenir qu'elle me posait cette question. Enfin, c'était pas forcément un sujet qui était abordé, quoi. Mais j'ai pas trop de souvenirs à l'école non plus de ça.
T'as combien de sœurs et vous avez combien d'écart entre vous ?
Alors, on est beaucoup. J'ai 3 sœurs et 2 frères, un petit frère et un grand frère. Et en fait, moi je suis l'avant-dernière et il y a 20 ans d'écart entre le petit et le grand. Et entre les 2 frères, il y a les 4 sœurs, quoi. Donc ça fait beaucoup. Et ma sœur qui est juste au-dessus de moi a 4 ans de plus que moi et mon petit frère a 2 ans de moins que moi. Voilà.
Est-ce que tu te souviens, en grandissant, comment cette envie de créer, elle s'est traduite dans tes choix d'études ou d'activités ?
Alors, choix d'études, j'étais vraiment pas étude pour le coup. Enfin, j'étais vraiment... l'école, j'aimais pas ça. J'aimais que les matières artistiques. J'ai fait une option ciné, donc ça, j'adorais. J'étais tout le temps en cours, mais tout le reste, j'étais tout le temps en retard. J'étais tout le temps collée. Enfin, j'étais hyper dissipée. J'étais pas du tout adaptée au système scolaire. Ça m'allait pas. J'arrivais pas du tout. Mais quand ça me plaisait, ça allait. Mais voilà, dès que ça me plaisait pas, dès que je voyais pas d'intérêt, dès que ça m'intéressait pas, ou que j'aimais pas le prof parce que je trouvais que sa philosophie était pas chouette, je décrochais assez facilement. Et après les études, c'était un peu pareil en fait. J'ai fait une formation d'art dramatique en conservatoire à Paris. Et pareil, j'ai arrêté en cours parce que en fait, ça me saoulait. Enfin, j'ai du mal à écouter quelqu'un de A à Z et à absolument faire tout ce qu'on me dit. C'est un truc, l'autorité, j'ai un peu du mal. Et, j'avais envie de faire mes propres choses assez vite, en fait. J'avais envie d'être libre très, très tôt. Donc, ouais, j'ai eu du mal avec tout ce qui était scolaire tout au long à l'école et pendant mes études aussi, quoi. Donc, j'ai assez vite décroché, assez vite travaillé aussi, du coup. Et puis, ça m'a permis d'avoir plein d'expériences qui sont hyper intéressantes aussi. J'ai travaillé dans le ciné pendant 5 ans, mais comme je gagnais pas beaucoup, j'avais plein de jobs à côté. Donc, j'ai fait plein de choses. J'ai été serveuse, j'ai été vendeuse. Enfin, voilà, j'ai fait plein de boulot pour vivre. Et c'était hyper enrichissant, en fait, d'avoir les deux, d'avoir le ciné et ça. Ça m'a vraiment permis de rencontrer plein de gens, de comprendre plein de choses sur la vie. Enfin, limite, ça a été mon école un peu sur plein de sujets. Et j'ai l'impression d'avoir plus appris par moi-même que parfois on peut apprendre à l'école, quoi.
Tu faisais quoi dans le cinéma ?
Alors, j'ai fait plein de choses. J'ai commencé par être figurante de manière bénévole. Après, j'ai fait du ventousage. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. C'est les personnes qui gardent les places de parking pour les camions avec tout le matos de tournage. Voilà, ça a un nom. Donc, j'ai fait du ventousage. Et ça, c'était un peu pour me tester, pour voir si... Enfin, les gens de la production, ils voulaient voir un peu si je voulais vraiment m'accrocher, quoi, parce que... En gros, je suis allée les voir sur un tournage en leur disant « Ouais, je vais travailler dans le ciné, je suis motivée. » Et ils se sont dit « Bon, bah viens demain à 5h du mat garder un camion et puis on verra quoi. » Je pense qu'ils se disaient « Elle va pas se pointer. » Mais j'y suis allée. C'était 5h du mat à Montreuil, donc il y a 10 ans. Ouais, c'était il y a 10 ans pile à peu près. Et je me suis fait pas mal emmerder d'ailleurs, malheureusement c'est le souci quand on est une fille à 5h du mat, mais bon, voilà, j'y suis quand même allée et je suis restée, donc ils étaient contents. Et donc là, ils m'ont embauchée sur un autre tournage où j'ai fait de la régie, donc c'est les personnes qui s'occupent de la logistique, des repas, de comment on organise tout un tournage. Et puis après, le cinéma, c'est assez, je pense que tu connais, mais c'est assez hiérarchisé. Et voilà, et du coup, j'ai un peu gravi entre guillemets les échelons, même si j'aime pas trop cette expression, parce que c'est pas très cool pour les gens qui font de la régie, parce qu'il y a des gens qui adorent ça et que c'est un boulot comme un autre, quoi. Et voilà, mais bon, en tout cas, c'est comme ça qu'on dit, on va dire. Et donc j'ai fait assistante réa, donc assistant réalisateur ou réalisatrice, et j'ai fait aussi de assistante production. Voilà, donc j'ai fait vraiment plein de choses. C'était ultra intéressant parce que ça m'a permis de comprendre un peu toutes les facettes d'un tournage. Et tu vois, c'est des expériences qui me servent encore vachement aujourd'hui, parce que pour gérer une entreprise, t'es amené à gérer des gens, et quand t'es assistant réalisateur, tu gères des gens, t'es amené à gérer des budgets, et en production, tu gères des budgets. Enfin voilà, c'est vraiment des choses qui me servent au quotidien. Et c'était ultra enrichissant de faire autant de choses différentes, quoi.
Alors justement, avance rapide. Je t'écoutais raconter un peu ton parcours en pensant comment cette personne qui me dit que ses parents n'étaient pas très présents, qu'elle n'était pas très intéressée par l'école, qui a fait plein de trucs différents, se retrouve à être aujourd'hui... Alors, je t'ai trouvé parce que je cherchais qui était derrière la marque Meuf, qui est trop cool. Et je me suis dit, mais qui donc fait ça? Donc, c'est toi qui fais ça? Incroyable. Donc, j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu comment c'est venu. Alors, sur Internet, on trouve que tu es directrice artistique de la marque, mais c'est toi qui l'as fondée, c'est ça?
Ouais, tout à fait.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre ces années de cinéma et petit boulot et aujourd'hui la marque Meuf, ce carton? Enfin, l'année dernière ou il y a 2 ans, vous avez fait une collab avec Angèle. Enfin, c'est pas une petite entreprise, c'est un carton, cette marque.
Ouais, alors c'est vrai que c'est un carton, ça reste quand même une petite entreprise parce que c'est, on a que 2 ans et demi et que voilà, moi je préfère être prudente, mais ouais, pour l'instant tout va bien, donc c'est cool. Mais oui, enfin. En gros, donc il y a 2 ans et demi, faut que je remonte un peu plus en arrière, en fait, parce que sinon tu vas pas comprendre. Mais donc ouais, je bossais dans le ciné, tout se passait très très bien, mais je commençais un peu à en avoir marre parce que je bossais tout le temps sur les projets des autres et pas sur les miens. Et donc j'étais frustrée de ça, parce qu'au final, entre les boulots alimentaires, les tournages, il me restait plus beaucoup de temps pour moi, donc j'avais plus de temps forcément. En 5 ans, j'ai réalisé un court-métrage. Donc voilà, j'arrivais pas à avoir le temps. J'écrivais beaucoup, mais j'arrivais pas à prendre le temps de faire mes projets, de tout ça. Et puis financièrement, c'était quand même toujours compliqué. c'était fatigant que ça soit toujours compliqué. Bon, alors après, monter son entreprise, c'est pas forcément le meilleur choix pour être hyper bien financièrement au début. Mais bon, voilà. Mais du coup, ouais, ça commençait à me fatiguer un petit peu. Et pile dans ce moment de doute, j'ai un ami qui était à l'ESCP, donc qui est une école de commerce, qui participait donc dans le cadre de son école à un concours d'entrepreneuriat. Et en gros, il devait faire un projet à présenter. Et puis, enfin, voilà, j'étais là, donc on discutait un peu, je l'aidais, mais vraiment, c'était juste pour l'aider dans son projet. Et puis, je l'aide, et puis je l'aide de plus en plus. Il me dit que j'ai des bonnes idées, donc il m'appelle pour me poser des questions. Et je commence à l'aider sur ce projet de concours, quoi. Et c'était quoi ? On avait fait un site pour apprendre à parler une langue étrangère, mais sur la base du donnant-donnant. Donc, t'appelais quelqu'un en français, par exemple, et la personne t'apprenait en anglais, et c'était gratuit, du coup, c'était vraiment de l'échange. Voilà, bon, ça n'a jamais rien donné, et on n'a pas gagné le concours. Mais ça m'a j'ai eu beaucoup, beaucoup de doutes après ça, parce que j'avais adoré faire ça, j'ai adoré monter un projet entrepreneurial. Donc là, j'ai eu une énorme phase de doute, j'étais pas bien, je me suis dit, mais attends, mais depuis que t'es petite, tu veux faire du ciné, tu veux écrire, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je pensais vraiment que mon chemin était un peu tracé, quoi. Donc là, c'était assez difficile pour moi. Donc ce même ami, qui aujourd'hui est mon associé sur Meuf, me dit « Écoute, mon école, j'ai une formation entrepreneuriat pendant 6 mois et c'est ouvert aux élèves extérieurs et surtout en plus, ils aiment bien avoir des profils un peu artistiques pour qu'il n'y ait pas que des gens qui aient fait une école de commerce et que ça varie un peu les profils. Est-ce que ça te dit, c'est juste 6 mois voilà, donc je réfléchis, je me dis « Bon, 6 mois, c'est pas mal parce que c'est pas énorme. Si finalement ça me plaît pas, bah, je peux toujours revenir à autre chose et ça peut me permettre quand même de tester un petit peu. Donc je décide de tester ça, je postule à cette formation. Je suis prise et je pars à Madrid parce que c'était à Madrid. Donc je pars à Madrid, c'était la première fois aussi que je partais vivre hors de France. Voilà, donc c'était assez nouveau, quoi, tout ça. Et en plus, du coup, enfin, c'était études, voilà. Enfin, moi, qui n'étais vraiment pas études, pour le coup, c'est des études, même j'aime pas trop ce mot, mais c'est pour le coup, enfin, la France est faite comme ça, c'est assez élitiste, voilà. Enfin, c'est des gens, enfin, la plupart des gens qui sont là-bas, c'est des gens qui ont des parents qui ont vachement les moyens. Moi, je viens d'un milieu très modeste, donc, enfin, c'était vraiment un univers complètement différent du mien, quoi. Donc je pars là-bas et c'est très spécial. J'aime pas trop l'univers que je découvre, pour le coup. Je le trouve assez cliché, un peu le cliché qu'on peut avoir du monde, un peu des requins, la finance, enfin voilà, tout ça. Donc ça, j'aime pas du tout. Mais par contre, j'aime faire un projet, quoi. J'aime construire un projet. Là-bas, c'était très pratique, en fait. Il y avait pas beaucoup de cours théoriques, donc ça, heureusement, parce que je sais pas si j'aurais tenu. Et il y avait beaucoup d'exercices, beaucoup de choses à faire, donc ça, c'était chouette. Et notamment, on avait, pendant un mois et demi, on devait monter un projet. Le projet qu'on voulait. Et donc j'avais monté c'était une box avec des solutions naturelles pour les règles douloureuses. J'étais déjà orientée solution pour les femmes, puisque j'avais moi pas mal de soucis à ce moment-là et que ça m'empêchait d'aller à l'école 2-3 jours par mois. Et je me disais, mais c'est pas possible, on peut pas vivre comme ça. Et que j'avais réussi à trouver pour moi des choses qui marchaient. Je me disais, mais il faut que je partage ça. Donc j'ai commencé ce projet là-bas. Et j'ai adoré faire ça. Et donc, en sortant, je me suis dit, OK, je continue ce projet, go, quoi. Donc, en fait, j'ai commencé par ce projet-là, qui n'a pas du tout marché, qui était complètement un échec, mais qui était hyper intéressant. C'est un peu compliqué en France aussi de... Ouais.
Pourquoi c'était un échec ? Pourquoi tu dis que c'était un échec ?
Enfin, c'était un échec. Alors, c'est un mot qui est compliqué en France, échec, parce qu'on le prend, comme quelque chose de négatif. Mais moi, je le vois pas du tout comme quelque chose de négatif. Enfin, je pense que c'est un truc qui est... Les échecs, c'est fondamental. Enfin, bon, ça va faire très cliché ce que je vais dire, mais la phrase de Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, c'est pas soit je gagne, soit je gagne, soit j'apprends, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, c'est hyper vrai. Les échecs, c'est fondamental, autant dans la vie perso que dans la vie pro. Et moi, je sais que ouais, l'entrepreneuriat, ça m'a beaucoup, beaucoup appris à échouer. Et maintenant, c'est un truc qui me fait beaucoup moins peur, en fait. Enfin, quand j'échoue, je me dis « Ah, ok, cool, je vais apprendre un truc. » Et je le prends plutôt positivement. Enfin, alors après, je ne vais pas te dire que ce n'est pas rose tous les jours, mais je sais que ça vient me dire quelque chose, je sais que ça va m'apprendre quelque chose, quoi. Et comme je suis très, très curieuse et que j'adore apprendre des nouvelles choses et que j'aime progresser, apprendre des choses même sur moi-même, bah, je ne prends plus l'échec comme quelque chose de négatif. Mais voilà, du coup
alors,
ce projet...
Qu'est-ce que tu as appris de l'échec de ce projet ?
Ouais, bah alors du coup, ce projet, je l'ai monté donc, avec Nour, qui est mon associé actuel, et donc qui était celui qui m'avait fait rentrer dans l'école. Enfin voilà, en gros, depuis le début, on travaille ensemble. Et en fait, on a beaucoup appris humainement tous les deux. Parce que, bon, alors, il y a eu quelques petites difficultés, parce que d'un point de vue légal, c'est assez compliqué de faire des produits naturels en France. Donc ça, c'était compliqué. On a eu pas mal d'obstacles légaux. Mais au-delà de ça, c'était plus des soucis relationnels. Et d'ailleurs, c'est le problème de beaucoup d'entreprises. En fait, finalement, bah, c'est la communication entre les deux associés ou avec les salariés parfois. Mais là, nous, on n'arrivait pas du tout à travailler ensemble, alors qu'on s'entendait très bien et que ça avait bien marché pour le concours à l'école. Mais en fait, on s'angoissait l'un l'autre, peur mutuelle. C'est-à-dire que moi, je suis... En fait, sur le papier, on est ultra complémentaires. Moi, je suis un peu la fonceuse, mais parfois, du coup, bah, je rentre dans le mur, quoi. Et lui, justement, il va avoir tendance à plus freiner, mais c'est bien parce que, du coup, ça crée un équilibre. Sauf que là, on a pris cet équilibre et on en a fait une boule d'angoisse permanente. C'est-à-dire que le fait que je fonce, ça le stressait, donc il me freinait. Le fait qu'il me freine, je me disais, OK, il a besoin de motivation, donc je continue à foncer encore plus. Ça l'angoissait encore plus, ça m'angoissait, et hop, hop, hop. Et on a fait ça pendant 2 mois, quoi. Et en fait, quand t'es dedans, tu t'aperçois pas qu'il y a un problème et qu'il faut juste discuter. Donc voilà, donc au final, ça nous a appris à discuter. Et donc on a arrêté le projet. Donc là, c'était un peu dur, hein. Franchement, honnêtement, c'était quand même dur. Je le vivais mal. Voilà, j'avais l'impression que j'avais arrêté un peu le ciné, alors que j'allais avoir mon statut intermittent. Je commençais à être stable, et puis là, voilà, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais, Claire? Tu pars dans une autre direction, et ça marche pas, quoi. Donc ouais, c'était assez dur. Et en plus, pile à ce moment-là, je suis tombée enceinte, j'ai fait une IVG. Donc j'ai eu l'impression vraiment d'avorter en même temps du projet et enfin dans la vie. Enfin c'était une phase assez bizarre, vraiment où j'étais pas bien. Et en plus l'IVG, bon, même si c'est pas du tout quelque chose que je regrette, ça a été quand même assez dur à vivre pour moi. Je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais voilà, il y a des femmes pour qui c'est un peu dur, et moi ça a été un peu difficile. Et donc voilà, j'étais un peu dans ce truc-là, pas bien, quoi. Et je suis pas bien, et je me dis bon, il faut que je fasse quelque chose, parce que sinon je vais je sais pas où je vais aller, quoi. Je vais aller en endroit où il fait noir, donc on va pas y aller. Donc j'essaie de me motiver, et j'avais cette idée en tête depuis longtemps, que ce soit dans l'écriture, dans le ciné, voilà, je voulais exprimer plein de choses pour les femmes et pour moi, hein, en général. Quand je fais quelque chose, je me dis toujours, voilà, si ça me parle, ça va parler à d'autres femmes. Mais donc je pars souvent de moi, et je voulais exprimer plein de frustrations. Je voulais exprimer aussi plein de choses positives. Enfin, j'étais frustrée de l'image qu'on peut avoir des femmes, que ce soit dans les films, que ce soit dans les livres, que ce soit dans les magazines. Enfin voilà, ça me frustrait beaucoup. Et je voulais montrer autre chose, je voulais montrer un autre message, et je cherchais un moyen d'expression, quoi. Donc j'avais pas encore trouvé. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah tiens, les vêtements. En fait, je voulais faire quelque chose qui se voit partout. Je me disais, qu'est-ce qu'on voit partout ? Alors, on peut faire des tags dans la rue, on peut manifester, c'est vrai. Et qu'est-ce qui peut être un peu comme une pancarte de manifestation ? Et qu'est-ce qu'on choisit ? En fait, qu'est-ce qu'on choisit de prendre, voilà. Et donc, je trouvais que les fringues, au final, c'était hyper fort, parce que c'est quelque chose qu'on choisit le matin. Surtout en tant que femme, bah, c'est pas forcément positif, mais le matin, on doit souvent beaucoup plus réfléchir qu'un homme à comment on va s'habiller, en fonction d'où on va, qui on va voir, à quelle heure on rentre. Qu'en fait, c'est quelque chose qu'on pense beaucoup, et parfois un peu négativement. Et je me suis dit, bah, ça serait chouette de penser positivement en se disant, bah, aujourd'hui, je vais mettre cette fringue-là parce que j'ai envie d'avoir ce message-là, parce que j'ai envie de parler de ça, parce que j'ai envie d'avoir cette force-là. Voilà, c'était ça vraiment le tout début d'idée de meuf, quoi. Ça a commencé comme ça. Et donc, je me suis dit, OK, go, allons-y, on va tester et on verra. Enfin, je suis très comme ça, je suis très... et puis, avec l'expérience que j'avais eue de ce fameux échec, j'étais vraiment, OK, faut être dans l'action. Je fais, si ça marche pas, on verra, quoi. J'étais vraiment dans ce mode-là. Et donc, je commence toute seule, hein, pour le coup. Et donc, je commence meuf et j'ai plein de problèmes, évidemment. Mais ça plaît. Donc je me dis qu'il faut continuer. Et surtout, j'ai été hyper entourée, que ce soit du point de vue des gens que j'ai rencontrés au niveau des productions, parce que je voulais quelque chose d'éthique. Alors ça a été plus compliqué que prévu. Au début, c'était impossible de faire en Europe parce que j'avais des trop petites quantités. Mais donc voilà, je m'étais débrouillée pour trouver quand même le truc le plus éthique du monde. Et donc, c'était aussi intéressant de se dire, OK... parfois, pour lancer un projet, il faut renoncer un peu à une partie, mais ça ne t'empêchera pas d'y revenir. Et aujourd'hui, c'est le cas parce qu'on est, 100% made in France, on est en coton bio, on fait du recyclé. Donc voilà, la vision que j'avais depuis le début, ça fait depuis octobre qu'on fait ça, qu'on est tout made in France. Et donc, on y revient à un moment donné, quoi. Mais ça, c'était assez intéressant.
Je veux bien qu'on s'arrête un instant là-dessus parce que je pense que c'est hyper important. Je pense aussi à toutes celles et ceux qui voudraient en ce moment, qui réfléchissent en ce moment, on parle évidemment de la crise du coronavirus, à changer de carrière, qui vont vouloir peut-être se lancer dans l'entrepreneuriat et qui vont évidemment faire face à exactement les dilemmes que tu as dû traverser, à savoir, OK, j'ai une idée et j'ai envie de la développer de manière éthique. Déjà, première question, c'était quoi à l'époque ta définition de l'éthique? C'était quoi tes critères? Comment tu as réfléchi? Effectivement, tu me parles de compromis et de pouvoir ensuite revenir à une définition qui te satisfait mieux. J'aimerais bien qu'on s'arrête un peu sur ce cheminement-là.
Ouais. En fait, alors ma définition d'éthique, je voulais faire des fringues accessibles quand même, enfin le plus accessible possible, mais pas faites par des enfants et faites le plus près possible. Voilà, c'était ça l'idée. C'était pas évident, en fait, parce que en plus je connaissais rien au textile. Enfin, maintenant ça va un peu mieux, mais je débarquais dans un nouveau monde. Les gens me regardaient genre, qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Enfin, je suis partie me balader dans le Sentier à Paris. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un quartier historique de Paris où il y a tous les vendeurs de tissus en gros, donc vraiment pour les professionnels. Et pas mal de façonniers et tout ça. Donc je me suis dit, bon, allons-y, on va aller là-bas, c'est là-bas que ça se passe, quoi. Et je suis entrée dans plein de boutiques en disant, ouais, je veux fabriquer des t-shirts, je veux que ça soit éthique, je veux que ça soit fait pas loin. Et ils me disaient, d'accord, t'en veux combien? Là, j'en veux juste 30, 40, quoi. Ils me regardaient, genre, OK, c'est mort, enfin, tu sors, quoi. Donc ouais, il y en a plein qui m'ont dit non. Et je suis rentrée dans une boutique. Dans le Sentier toujours, et j'ai rencontré Bruno, qui est toujours un de mes fournisseurs, et lui il m'a dit, t'es complètement folle, mais je t'aime bien, voilà. c'est le premier truc qu'il m'a dit. et donc il m'a dit, je vais t'aider, je sais pas, je crois en ton projet, t'as une belle énergie, je vais t'aider, quoi. Donc je pense qu'un truc qui est important, c'est toujours essayer de demander quand même de l'aide et les rencontres, quoi. Enfin, vraiment, les rencontres, c'est vraiment la vie. Enfin, moi, la meuf serait jamais ce qu'elle est aujourd'hui sans toutes les rencontres que j'ai faites, sans tous les gens qui ont posé une pierre à l'édifice et qui ont cru au projet, qui ont bien voulu aider, donner de leur temps, donner des conseils. Enfin, ça, c'est hyper important, hyper important. Et j'essaye de le faire, moi, à mon tour aussi, En le faisant pour d'autres personnes. Et il faut, enfin, c'est, voilà, ça c'est vraiment un truc, déjà les gens c'est très important. Mais donc ce Bruno me dit, je vais t'aider, mais tu pourras pas fabriquer en France pour si peu de pièces. Il me dit, écoute, moi j'ai un fournisseur qui est fait loin, donc c'était en Asie, mais c'est bio, c'est Fairwear Foundation, donc c'est surveillé, il n'y a pas d'enfants qui travaillent, et c'est lui qui me dit, teste avec ça. Si ça marche pas, t'auras pas pris de risque, t'auras pas de problème parce que t'auras pas mis je sais pas combien pour faire une production en France et tu te retrouves ruiné parce que ton projet finalement marche pas. Et si ça marche, eh ben tu pourras changer ça, quoi. Et donc bon, j'étais pas hyper contente, mais je me dis bon, il a raison. De toute façon, j'ai pas d'autre choix. J'ai pas hérité de je sais pas combien d'euros. Enfin voilà, je partais meuf, je l'ai créé avec 1000 euros, donc c'est vraiment rien pour lancer une marque. J'ai jamais réinvesti depuis, c'est ça qui est assez incroyable. C'est en autofinancement depuis le premier jour, quoi. Et donc il me dit ça, donc je lui dis d'accord, ok, on va tester comme ça, quoi. Et donc je teste comme ça. Et ça prend super vite. Ça prend super super vite. J'ai la chance d'être aidée de plein de femmes super sur Instagram principalement, notamment Marion Séclin que tu dois connaître, c'est elle qui a vraiment la première qui a. Je pense que j'avais 300 abonnés et elle m'a dit mais j'aime trop. Et elle a porté un des premiers pulls meuf qu'elle doit toujours avoir quelque part au fond de son placard géant. mais voilà, et donc elle m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et en plus, elle m'a permis d'avoir une certaine crédibilité pour aller voir d'autres meufs sur Insta, quoi. Et en fait, c'est parti très, très, très vite. Et c'est parti même plus vite que moi. C'est-à-dire que j'ai été hyper vite complètement dépassée. Parce qu'au début, j'envoyais les commandes toute seule. Enfin, je faisais tout chez moi dans mon salon de mon 30 mètres carrés. Et en fait, j'ai été envahie de fringues et de colis. Donc, je me suis dit, bon, OK, c'est cool. C'est un problème plutôt, plutôt positif. Je voyais toujours Nour régulièrement, mon associé sur la boîte d'avant. Et il me dit, écoute, moi je kiffe, je veux bien rentrer dans le projet avec toi. Entre temps, on avait beaucoup discuté, on avait compris ce qui s'était passé, et on était assez frustrés en fait de cet échec relationnel parce qu'on sentait qu'il y avait une belle synergie, qu'il y avait une confiance et qu'il y avait une complémentarité qui avait juste été mal utilisée, quoi. Donc, on se dit, écoute, allez, on retente et on se laisse. On se dit, dans 2 mois, on fait un point, quoi, pour voir si vraiment ça marche pas et tant pis, ou si finalement, maintenant qu'on a discuté, ça va mieux. Et donc, il me rejoint. Ça faisait, je pense, 5 mois, un truc comme ça. Il me rejoint et voilà. Et au final, ça se passe bien. On est toujours associés, donc ça va, tout va bien. Et voilà, et donc meuf marche de mieux en mieux. Donc on prend un centre logistique qui envoie, enfin on commence à s'organiser autrement, quoi. Et voilà pour les tout débuts de meuf.
Alors je reviens un instant sur cette question de l'éthique, mais qu'est-ce que ça dit de l'industrie textile de savoir qu'aujourd'hui tu débarques avec un cahier des charges qui est « je veux pas que ce soit fait par des enfants et je veux pas que ce soit fait trop loin de France » et qu'on te rayonnait avec ça comme cahier des charges.
Ouais, c'est dingue, c'est vraiment dingue. Et maintenant que nous, on est fabricants maintenant, parce qu'en fait, c'était trop compliqué de passer par d'autres gens, donc on s'est dit bon, ça, on le fait nous-mêmes en fait, stop. Donc là, on est fabricants depuis octobre, et c'est tout un nouveau monde. Enfin, moi, j'ai appris un métier, quoi. J'ai eu justement beaucoup de chance d'être entourée de gens qui croyaient au projet et qui m'ont appris un métier.
Donc ça veut dire quoi, on est fabricants? T'as relancé un atelier de confection textile en France?
Ouais.
Trop bien.
Ouais, c'est trop cool. C'est trop cool. On a eu un petit peu peur là avec le corona, mais ça va. mais c'est assez fou. Enfin, ça dit beaucoup de choses sur notre monde, hein, de toute façon, et sur notre façon de consommer, qui est en fait, c'est impossible de faire un truc juste en bas de chez soi. Enfin, c'est improbable, et ça coûte beaucoup moins cher de le faire à l'autre bout du monde par on ne sait qui. Donc ouais, c'est assez fou. Et maintenant que je sais comment on fait, bah oui, effectivement, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. C'est un énorme travail, et j'espère qu'il va commencer à être plus valorisé par le consommateur. Je pense que ça l'est de plus en plus. Mais c'est vrai que les gens se rendent pas compte, quoi, de tout le travail que ça peut demander de fabriquer de manière plus locale. Et je pense que là, avec tout ce qui s'est passé, c'est vrai qu'il y a encore plus de questionnements sur comment on consomme, et c'est vraiment tant mieux, autant sur le textile que sur la nourriture. Mais le textile, c'est la deuxième industrie la plus polluante. Faut vraiment qu'on change nos façons de consommer là-dessus. Il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions, mais on manque de moyens en France. Et puis, il faut quand même que le consommateur achète à la fin parce que ça a un coût qui est forcément supplémentaire. On ne peut pas faire le même t-shirt... on peut pas faire un t-shirt qui coûte 5 euros en France, quoi. C'est impossible, mais vraiment. Et surtout pas dans les matières que nous, on utilise, où on sait... nous, on fait au maximum pour que de A à Z, il n'y ait pas d'exploitation... humaine, que les gens qui ramassent le coton, ils se prennent pas plein de pesticides dans la gueule, et qu'après ils aient des problèmes de poumons. Enfin, c'est tout un truc, en fait. C'est toute une chaîne. Et par exemple, le coton, c'est une des matières qui est les plus utilisées pour les vêtements, alors que c'est une matière qui demande énormément d'eau. Mais vraiment. Et il y a d'autres solutions, comme par exemple, nous, on est en train de réfléchir, on regarde un peu le chanvre, qui est une matière qui est incroyable, qui est complètement sous-exploitée, qui sert à plein de choses. On peut faire de l'isolation, on peut faire des vêtements, on peut faire de l'huile, voilà. Et en fait, elle a mauvaise réputation parce que il y a du CBD dedans, et donc voilà. Et elle a été, c'est une plante qui a été ultra diabolisée, mais elle est géniale, cette plante, et elle demande, j'ai pas les chiffres, mais quelque chose comme 50 fois moins d'eau que le coton. Enfin, c'est assez incroyable. Et c'est une plante qui pousse hyper facilement, qui pousse en France. Donc on n'aurait pas besoin... Le coton ne pousse pas en France. Le coton a besoin de chaleur. Donc voilà. Et donc en fait, c'est... Enfin, moi, je découvre que toute l'absurdité de tout ça, de se dire, tiens, on pourrait faire des fringues en France avec des matières qui sont ultra écologiques, qui pourraient rémunérer des gens ici. Et non, en fait, on se dit, tiens, c'est mieux d'aller gaspiller je sais pas combien d'eau à l'autre bout de la planète... avec des enfants qui se prennent des pesticides. Enfin, c'est assez fou, mais c'est moins cher, voilà. Donc malheureusement, c'est ça qui drive les gens la plupart du temps, quoi.
Alors je confirme pour le chanvre, parce que moi je suis végane et que dans mes achats, j'ai essayé il y a plusieurs années de renouveler progressivement ma garde-robe. Alors spoiler alert, effectivement, le Made in France, j'avais pas les moyens. Ouais. J'ai fait un investissement sur un manteau qui est donc un manteau végane en chanvre.
Trop bien.
Qui est fabuleux.
Ah ouais. Ouais, ça tient super chaud, le chanvre.
Ouais, exactement, et j'ai trouvé ce manteau parce que je faisais cette recherche exactement sur les critères que tu viens d'expliquer, sur la consommation d'eau, le type de récolte, comment elles sont récoltées, où, etc. etc. Mais alors, dernière question vraiment sur le modèle économique et l'éthique. Le modèle économique aujourd'hui de la fast fashion, c'est de produire d'énormes quantités, avec des conditions de travail, aucune préoccupation pour l'éthique, ce qui permet de faire des marges énormes tout en maintenant des prix très très bas. Et tout en incitant donc les gens à renouveler très fréquemment leur garde-robe. Aujourd'hui, un t-shirt à 5 euros dans des marques de fast fashion, il dure 3 lavages, 5 quand on lave à froid. Mais du coup, leur modèle économique, il est tout trouvé sur notre surconsommation à nous. C'est quoi ton modèle économique ? Parce que si j'achète des t-shirts chez Meuf, des pulls chez Meuf, visiblement, ils sont faits pour durer. Au bout d'un moment, t'auras plus de clientes.
Bah écoute, oui, enfin alors bon, clairement, nous, notre but, c'est d'éviter ce côté-là de fast fashion. Et oui, bah c'est vrai que c'est un peu contradictoire avec le bien-être, entre guillemets, la bonne santé financière d'une entreprise. Et nous, notre idée, c'est pas de sortir une collection tous les 3 heures pour que les gens achètent et tout ça. Et c'est pas forcément de pousser à la consommation. Donc tout ça est un peu... un peu compliqué. Et oui, enfin, clairement, nos t-shirts, si t'achètes un t-shirt aujourd'hui, alors c'est sûr, il coûte 39,90, mais dans 2 ans, il sera toujours dans le même état. Enfin, ça dépend à quel point tu le portes, parce que je sais qu'il y a certaines de nos clientes qui les mettent 4 fois par semaine. Bon, là, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Mais oui, après, oui, enfin, c'est forcément moins rentable, hein, clairement. Après, il y a plein de gens qui sont susceptibles d'acheter. Je sais que voilà, les gens rachètent beaucoup chez nous. Enfin, nous, on a beaucoup de clients qui reviennent parce que justement, ils sont contents de trouver des t-shirts de qualité. Et on a quand même tous besoin de quelques paires de t-shirts, quoi. Et puis après, oui, on essaye de sortir des nouvelles collections pour parler de nouveaux sujets. Je pense, et en tout cas, c'est les retours qu'on a, qu'on offre plus qu'un vêtement. C'est-à-dire qu'on essaye, nous, d'offrir aussi un message. Et comme je te disais tout à l'heure, le matin, c'est un choix. Et tu vois, on a beaucoup de... On a beaucoup de personnes qui nous suivent et qui ont acheté, qui nous disent bah, « moi, j'ai choisi de mettre ce vêtement parce que je voulais négocier mon salaire ce matin, donc je l'ai mis sous ma chemise parce que je ne peux pas aller le mettre au boulot, par exemple, ou alors je peux le mettre au boulot et voilà. Mais je mets ce t-shirt et je sens la force de meuf avec moi. » Et ça, c'est moi, quand on me dit ça, c'est incroyable. Donc il y a ça aussi, il y a cette dimension-là où on essaye de faire des fringues un peu magiques, où il y aurait un espèce de sororité de meuf à l'intérieur, quoi, un condensé de plein d'énergie, et c'est ce qu'on essaye de faire. Et après, oui, enfin, là tu vois, on a plein d'idées, on veut sûrement sortir plein de nouveaux produits, pas forcément que des t-shirts, mais aussi d'autres choses, et on réfléchit à chaque fois comment faire des choses qui durent, parce que c'est comme ça qu'on a envie de travailler. Et il y a plein, en fait je pense qu'il y a plein de sujets sur lesquels on peut faire des choses qui durent plus. Tu vois, je pense notamment aux collants, par exemple. C'est hyper intéressant, mais les collants, à la base, ça se trouvait pas du tout comme ça. Et c'est les industriels qui se sont dit « Ah, c'est pas bien, ils rachètent pas assez souvent, on va faire que ça se casse. » Et donc, je pense que là, on revient à dire « Bah non, ça va pas, il faut trouver des solutions. » Mais c'est pas si simple, hein, c'est pas si simple. Mais c'est super intéressant, parce qu'en fait, tu découvres des industries et tu dois un peu embêter tout le monde en disant non, moi je veux pas un truc qui se casse dans 5 minutes, je veux un truc qui dure, quoi. Et tu te regardes un peu genre, t'es bizarre toi. Mais voilà, en tout cas, ouais, pour l'instant, Meuf va bien et les gens nous soutiennent. Et tu vois, là pendant le corona, on a arrêté nos livraisons parce qu'on voulait pas mettre en danger les livreurs, les postiers et les préparateurs de commandes. On n'avait pas envie. On a un petit atelier, donc les gens, ils sont serrés. Enfin, voilà, on voulait trouver des solutions. On voulait regarder un peu ce qui se passait, quoi. Et donc, on a tout arrêté en disant, écoutez, vous pouvez acheter, mais par contre, on ne vous livre pas tout de suite. On livrera après. On a dit ça, ouais, au bout de 3 jours, on a décidé ça. Donc, c'était hyper dur, tu vois, comme décision à prendre, parce que tu te dis, mais ça peut tuer mon entreprise, en fait. Enfin, c'est mon bébé, j'ai tout donné depuis 2 ans, et ça se trouve, bah, stop. Et en même temps, tu te dis, bah oui, mais attends, là, il se passe quand même un truc beaucoup plus gros que moi, et beaucoup plus gros que tout ça. Et en fait, on a eu un énorme soutien, mais vraiment, enfin, moi, ça m'a touchée, et je me suis dit aussi, waouh, mais le monde est peut-être un peu en train de changer. Enfin, on a eu énormément, énormément de commandes, donc on a eu beaucoup de boulot après, pendant la semaine du déconfinement. Et ouais, on a eu énormément de soutien, et je pense que on a tous, enfin moi la première, et voilà, les gens en général, on a tous envie de consommer un peu différemment, de soutenir des entreprises qui nous tiennent à cœur, où on sait qu'il y a derrière, et nos consommations sont en train de changer, et c'est nous qui lidons là-dessus, c'est nous les consommateurs, parce que j'ai pas l'impression que ça va trop venir d'en haut, enfin d'en haut comme on dit, quoi, mais voilà. Donc je pense que ça doit venir de nous, c'est nous qui dictons les règles. Enfin, je pense qu'on a ce pouvoir là en tout cas de dire aux marques, bah non, en fait je veux savoir d'où ça vient, je veux savoir qui a fabriqué, je veux savoir qui a créé, je veux savoir pourquoi ça coûte ça. Voilà, je pense que c'est un truc qui est très demandé, et du coup les marques sont obligées de s'adapter. Nous, on le fait pas pour s'adapter, on le fait parce qu'on a envie de le faire, et on est vraiment ultra sincère là-dessus. Mais je vois bien qu'il y a des grosses marques qui disent « Ah, ok, bon, c'est comme ça qu'il faut jouer maintenant. » Bon, c'est sûrement opportuniste, mais au final, moi, je le prends comme une victoire des consommateurs, en fait. Je me dis bah, « on a réussi. » C'est un peu pareil sur... Je dévie un peu, mais tu vois, sur la représentation des femmes dans les pubs pour fringues, il y a 2 ans, tu voyais que des meufs mannequins, 34, 16 ans... Ce qui est très bien, hein, tout va bien là-dessus, mais que ça, c'est ça le problème. Et c'est pas forcément, enfin, c'est même pas du tout représentatif de la femme française, de la taille moyenne d'une femme française, qui est 42. Voilà. Donc pas du tout 34. Et aujourd'hui, bah, alors c'est tout doux, c'est gentil, c'est doucement, mais on commence à voir dans la rue des pubs pas retouchées, on voit de la cellulite, on voit des vergetures, et voilà, et moi j'en discute avec des gens qui me disent, parce que nous on le fait depuis toujours, on a toujours, c'est pas des mannequins qui posent pour nous, c'est des membres de la communauté de meufs, on a toujours pris plein de morphologies différentes, plein de couleurs de peau différentes, plein de profils différents. L'idée, c'était vraiment de montrer toutes les beautés qui existent, et pas une beauté standardisée qui change en plus tous les 10 ans ou tous les 5. Un coup, faut avoir des grosses lèvres, un coup des petites, un petit cul, un gros cul. Enfin voilà, on s'y retrouve plus trop. Et ouais, donc je discute souvent de ça avec des gens. Ils me disent « Ah, mais ça doit t'énerver, toutes ces marques opportunistes Et je leur dis, bah non, en fait, je suis super contente. Moi, je suis super contente parce que déjà, moi, j'ai pas les moyens de mettre une pub dans la rue où on voit de la cellulite. Et en fait, là, le message, il passe. Je veux dire, OK, c'est opportuniste. Mais en attendant, moi, en tant que femme, quand je sors dans la rue et que je vois ça, eh ben, ça me fait du bien parce que je me dis, OK, bah, en fait, la cellulite, c'est OK. Et ça fait du bien. Et donc, tu vois, ça, pour moi, ça vient des consommateurs. C'est nous qui demandons ça. C'est nous qui voulons voir ça. On le demande, bah, on l'a parce que les marques, elles sont obligées de s'adapter, quoi. Donc je pense qu'on a plus de pouvoir qu'on le pense.
Bah, je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, j'en profite, mais j'ai fait un épisode de podcast sur ce sujet. Ça s'appelle « Voter par consommation ». On connaît le vote par procuration. Et ben, voter par consommation, c'est exactement ce que ça dit. Je vote à chaque fois que je passe à la caisse d'un supermarché. Et tout ce que tu viens d'expliquer sur nos choix de consommation, bien sûr que ça contribue à façonner l'offre. Je pense pas non plus que le changement viendra d'en haut, comme tu dis. Je pense pas non plus qu'il viendra exclusivement d'en bas. Je pense que si nous, on envoie des messages par le bas, ça va finir par arriver en haut et ça va redescendre.
C'est ça, c'est ça. Ah bah, j'écouterai l'épisode.
Claire, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton adolescence. J'aimerais que tu choisisses un âge de l'adolescence et que tu sortes un polaroïd de cette époque. Donc tu te décris, à quoi tu ressemblais, alors pourquoi cet âge-là, celui que tu choisis, à quoi tu ressemblais, c'était quoi ton style vestimentaire, c'était quoi ton caractère, c'est quoi tes rêves et dans quoi tu te projetais à ce moment-là?
Alors attends, je réfléchis, parce que j'ai eu une adolescence assez compliquée, hein. J'étais un peu une adolescente dissipée, pas très heureuse, et je suis passée par 10 milliards de styles vestimentaires, comme je pense à peu près toutes les ados. J'ai fait émo, j'ai fait un peu tout, j'ai fait vraiment un peu tout. Écoute, je pense que là comme ça, je pense que je pense plus à la Claire de 16 ans, un truc comme ça. C'est l'âge où je venais d'arriver, enfin j'étais au lycée et j'ai redoublé une fois une seconde, donc j'étais en deuxième seconde et j'étais au lycée option cinéma. Donc à Lyon, et c'était trop chouette parce que j'avais enfin un truc qui me plaisait à l'école et ça c'était nouveau et j'étais à fond, je pensais qu'à ça, j'avais pris l'option cinéma principale plus l'option optionnelle, donc j'avais 10 heures par semaine de cours de ciné et voilà, donc je pensais qu'à ça tout le temps, j'étais obsédée par ça et c'était trop bien. Style vestimentaire à cette époque, alors pour le coup j'étais dans la surconsommation totale. Pour le coup j'avais pas du tout conscience de tout ça, j'étais à mille lieues de me rendre compte que ma consommation pouvait avoir un tel impact autant sur la planète que sur les gens. Donc j'étais en mode Zara, enfin voilà, pardon, peut-être faut pas que je cite de marque, mais j'étais en mode j'étais en mode ancienne fast fashion, quoi. Et je voulais changer de style tout le temps. Enfin voilà, j'étais assez. Je commençais à avoir un peu le style que je peux avoir aujourd'hui, donc un peu parfois un peu excentrique, parfois ouais un peu. J'aime bien avoir des fringues un peu marrantes, pas forcément basiques, quoi. Voilà, donc je commençais à développer ce style-là, on va dire. Et je commençais aussi à découvrir un petit peu les fripes et tout. Ben, je suis une grosse consommatrice une grande consommatrice plutôt, on dit, de fripes. Donc je commençais un peu à découvrir ça aussi. Voilà, mais je crois que mes parents n'étaient pas très chauds. Enfin, ils avaient un peu le cliché de genre ça pue, ça a été porté par plein de gens. donc je crois que j'achetais pas trop, mais je commençais à trouver ça sympa, quoi. J'aimais bien le fait de chiner. De devoir chercher, je trouvais ça plus difficile que d'arriver dans un magasin où tout est rangé, mais en même temps je trouvais qu'il y avait un truc un peu sympa de se dire ah, tiens, cette pièce là il y en a qu'une, c'est chouette, quoi. Donc voilà pour le style vestimentaire et sinon j'étais vraiment ultra curieuse de tout, enfin ça c'est vraiment un truc qui me définit, je suis très très curieuse, j'adore apprendre, j'adore quand je sais pas comment ça marche et donc là j'étais vraiment dans ma phase curieuse sur tout. Sur les relations, sur l'amour, sur le sexe, sur les boîtes, l'alcool. Enfin voilà, j'étais vraiment comme un animal qui découvre la jungle, quoi. Donc ouais, j'ai un peu cette impression-là, dans ma phase d'apprentissage et d'expérimentation, quoi.
Et aujourd'hui, avec ton regard d'adulte, quel regard tu portes sur l'adolescente que t'as été ?
Bah, je la trouve assez, assez courageuse parce que je faisais... Enfin, j'étais déjà... entre guillemets, je sais pas comment dire, mais pas, c'est pas droit dedans mes bottes, c'est pas le mot, mais c'est plus si j'étais pas d'accord, je le disais. Enfin, j'étais, je me laisse, ouais, j'avais déjà des convictions. Et tu vois, je me souviens par exemple, bah, je venais de commencer le ciné et j'étais sortie dans la rue la nuit avec une copine en mini jupe et en mini haut en filmant exprès, voilà, on s'est habillé comme ça exprès pour montrer un peu les réactions des gens et pour discuter avec des gens aussi. Tu vois, quand j'y repense, je me disais, mais waouh, c'est complètement inconscient d'avoir fait ça. Il aurait pu nous arriver des trucs hyper dangereux. Et en même temps, je trouve ça hyper, hyper courageux et je suis fière. Je me dis, waouh, j'ai osé faire ça. Et je me rappelle, tu vois, que je suis tombée sur un gars qui me disait, ah non, mais de toute façon, une fille qui se fait violer, c'est parce qu'elle aime ça. Parce que de toute façon, il suffit de crier et il y a quelqu'un qui va venir, quoi. Et je me suis pas démontée, au lieu de l'envoyer chez, j'ai dit ok, bah je vais crier là. On était dans la rue principale de Lyon, donc enfin il y a vraiment du monde. Et je me suis mise à hurler, et personne n'est venu. Et il était, mais bah il savait plus quoi dire quoi. Il m'a dit ah ouais, ok. Enfin, et il est parti. Et je sais pas. Alors bon, peut-être que ce gars a eu un, j'espère, parce que c'était quand même très grave. Mais j'étais comme ça quoi. J'étais pleine de convictions en cours de philo. Si j'aimais pas ce qu'on disait, bah je me levais, je me barrais. Enfin, j'étais vraiment, j'étais un peu genre bon, voilà. Les profs ne m'aimaient pas trop, mais en tout cas, ouais, j'étais déjà avec pas mal de convictions. Après, je pense que parfois j'étais bah enfin j'étais pas consciente de plein d'oppression donc peut-être voilà d'un point de vue relation amoureuse je pense que je me suis beaucoup laissée faire à cette époque je pense que je suis complètement rentrée dans tous les clichés qu'on nous inculque et ça j'avais pas du tout enfin j'étais pas du tout déconstruite là-dessus donc clairement j'ai vraiment eu des relations assez toxiques à ce moment-là. Donc ça, bah, quand j'y repense, ça me fait un peu de peine et en même temps, bah, ça m'a aussi construite et ça me donne aussi, ça m'a aussi donné envie de me battre pour qu'il y ait plus ça, quoi. Ouais, voilà, en gros.
Et l'adolescente que tu étais, si elle pouvait te voir aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle penserait de toi ?
Bah, je pense qu'elle serait, elle serait fière d'arriver à dire qu'elle est fière déjà, parce que c'est pas si simple et c'est super important. Et ouais, je pense qu'elle serait fière de tout ce que j'ai réussi à construire, toutes les phases par lesquelles je suis passée, de pas m'être laissée démonter, d'avoir cru en mes projets, et puis de réussir aussi à donner de la force à d'autres gens. Alors ça m'en donne énormément forcément à moi, hein. Ça va dans les deux sens, mais c'est chouette quoi de voir qu'on peut faire du bien. À mon échelle, bien sûr, hein, je suis pas en train de refaire le monde, mais voilà, enfin, je pense qu'elle serait super fière et puis fière de la confiance en elle. Enfin, c'est un peu bizarre de parler comme ça, mais j'ai l'impression d'être deux. Mais oui, enfin, fière de la confiance en moi que j'ai pu acquérir au fil des années, du fait que maintenant j'ai plus peur de dire quand je suis pas d'accord pas dans les relations, Et puis que, enfin, je pense que aussi un truc qui est hyper difficile quand on est une femme, c'est de dire ouais j'ai confiance en moi, ouais je pense que j'ai des bonnes idées, je pense que je suis intelligente. C'est hyper dur en fait. Hein. Je me rappelle même moi il y a quelques années quand j'entendais une femme parler comme ça, je me disais putain mais elle se la pète. Alors que pour un mec pas du tout. Donc je pense qu'on est ultra formaté là-dessus aussi. Une fille qui a confiance, elle se la pète. Alors qu'un mec, bah, c'est normal. Et c'est super important, je pense, d'être fière et de le dire, devant d'autres femmes aussi, pour qu'elles disent ah mais ok, en fait, c'est ok, on peut être fière de soi, quoi. C'est pas les femmes ont le droit d'être fières d'elles. Les femmes font plein de choses super. Enfin tout le monde, mais je veux dire, on fait plein de choses et on a le droit d'être fière de nous. C'est pas un défaut, c'est pas se la péter. On a le droit de se trouver intelligente, on a le droit de se trouver forte, on a le droit de se trouver belle, on a le droit à plein de choses positives. Alors bien sûr, on a le droit aussi de pleurer et de parfois être moins forte. Il faut pas non plus que ça devienne oppressant. Mais c'est, enfin moi je sais que j'ai manqué de référentiel de femmes qui étaient fières d'elles, quoi. Et c'est super important d'être fière de soi.
Ben merci beaucoup pour ça. La suite de cette interview, c'est un choix. Donc je vais te proposer, soit on parle de ta vie comme si c'était un film, donc quelle serait sa bande originale, quel serait l'élément problématique, etc. Soit on parle de ta zone de confort comme si c'était une pièce dans ta maison. Qu'est-ce qu'on trouverait à l'intérieur, comme déco, comme principe de vie, comme leçon apprise, etc. Qu'est-ce que tu préfères ?
Je pense que je vais prendre l'option film. Donc il faut que je trouve un film qui existe ou j'invente un film ?
Pas du tout. J'ai une série de 4-5 questions là que je vais te poser à la suite et donc on y répond étape par étape.
Ok, ça marche.
Tu peux penser ta vie comme un film, comme si c'était un biopic. Tu sais, les biopics en général, ils sont soit sur un moment précis de la vie de la personne et c'est romancé d'une certaine façon, soit c'est sur toute la vie, mais il y a des moments qui sont fast-forward en ellipse. Donc tu choisis. Si ta vie était un film, quelle serait sa bande originale ?
Alors je pense que sa bande originale, elle serait composée de plein de choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Il y aurait de la chanson française, beaucoup, parce que j'aime beaucoup ça. Il y aurait pas mal de rap aussi. Il y aurait de la musique classique parfois. Et parfois bah, des trucs un peu plus pop, un peu plus R&B. Ouais, je pense que ce serait hyper varié, quoi. Il n'y aurait pas un truc... C'est pas tout tracé, quoi.
Si ta vie était un film, quel serait l'élément problématique déclencheur de l'intrigue ?
L'élément déclencheur... Poulala ! En plus, je suis censée écrire des films, alors attention. je pense que moi, en tout cas, l'élément qui m'a été le plus problématique dans ma vie, et pour le coup, c'est assez perso, mais c'est la relation conflictuelle que j'ai eue avec mes parents. Donc je pense que ce serait ça. Ce serait l'élément problématique et comment se reconstruire quand on a eu des parents vraiment pas top, quoi.
Si ta vie était un film, quel est le personnage qui débarque juste au bon moment pour te prêter main forte ? Qui c'est et qu'est-ce qu'il fait ? Ça peut être plusieurs personnes et ça peut ne pas être une personne physique. Ça peut être la fée Clochette.
Alors, je pense que ça serait potentiellement un animal. Parce que j'aime beaucoup les animaux. Un chien, un petit chien qui veut jamais de mal. Enfin voilà, un être plus parfois plus cool que les humains, quoi.
Et qu'est-ce qu'il ferait dans l'histoire ? À quoi il te servirait ? Ce serait quoi son intervention ?
Je pense qu'il serait là pour me rassurer et pour me donner une base d'affection et d'amour. Qui me rendrait plus forte.
Si ta vie était un film, qui ou quoi est le méchant de l'histoire ?
Le patriarcat. C'est possible ou pas ?
Ça peut être une surprise d'entendre que tu n'es pas la première à me faire cette réponse.
Ouais, j'imagine. C'est pas très original.
Nous avons un ennemi commun.
Ouais, bah oui. Ouais, non, sûrement, ouais, un truc comme ça, hein, franchement.
Alors comment il se manifesterait dans l'histoire ? Les premières manifestations du patriarcat.
Oh bah je pense qu'il arriverait, au tout début du film. Il arriverait en me disant que comme je suis une fille, bah il y a plein de choses que je peux pas faire et que je dois m'habiller comme ci, comme ça et que je suis limitée dans mes choix, que je suis limitée dans mes libertés. Je pense que ouais, il arriverait comme ça, quoi, en mettant plein de contraintes tout le temps et en mettant des obstacles tous les mètres.
Ça ressemble à une histoire vécue, ce film, hein, je te le dis.
Ça commence.
Et enfin, dernière question, si ta vie était un film, après quoi tu cours ? Quel est ton but ?
Je pense que je cours vers plus de justice dans plein de sens. Là, c'est vrai que je suis plus sur plus de justice pour les femmes, mais je pense qu'il y a plein d'autres sujets qui m'intéressent, évidemment. Notamment tout ce qui est droit des enfants aussi. Forcément un peu de par le vécu un peu compliqué que j'ai eu en étant enfant, mais aussi plus de justice sociale, enfin c'est très difficile, je trouve. Je parle de la France parce que c'est le pays que je connais et j'imagine que c'est partout plus ou moins la même chose et que ça doit être, enfin il faut aussi être conscient qu'on a pas mal de chance en France sur plein de points, hein, mais ça doit être pire dans plein de pays, mais en tout cas c'est quand même très difficile en France quand on vient d'un milieu modeste, de pas survivre, en fait, de pas être dans quelque chose où on est dans la survie, mais d'apprendre à vivre. C'est quand même pas facile. Moi, là, je suis chef d'entreprise. La plupart des gens que je rencontre de l'écosystème français, qui sont des gens très sympas, hein, y a pas de problème, mais c'est quand même des gens qui ont des parents, qui ont beaucoup de moyens, qui ont eu des éducations, qui coûtent cher, qui ont grandi en étant hyper privilégiés. Et c'est très bien, tant mieux pour eux. Mais je suis presque seule à pas être dans ce cas-là. Et je trouve ça hyper triste et hyper dommage, en fait. Je pense que peu importe le milieu social duquel tu viens, tu as des choses à apporter à la société, tu as un regard, tu as une voix. Et je pense que c'est aussi un truc pour lequel j'ai envie de me battre dans la vie. Alors je commence par essayer de montrer un exemple en disant en fait on n'est pas condamné à faire un boulot qui ne plaît pas, à pas gagner bien notre vie et à être en galère tout le temps. On peut ne pas être dans la survie, mais dans la vie et dans quelque chose d'un peu plus sympa. Je pense qu'après. Dans la suite du film, dans le prochain épisode, je pense que c'est un truc qui va aussi m'intéresser encore plus. Et pareil pour les enfants, je trouve que c'est essentiel, l'enfance. Et il y a quand même, on n'a pas conscience en France d'à quel point il y a des gros sujets de maltraitance, des problèmes. De comment on éduque les enfants, de plein de choses. En fait, les enfants n'ont pas tellement de droits. Et je pense que c'est hyper important. Et je me dis que peut-être que ça réglerait pas mal de soucis. En tout cas, je sais que... Je suis convaincue que, par exemple, si on avait plus d'égalité femmes-hommes, y aurait moins de soucis... peut-être écologiques. Enfin, voilà. Je pense que ça résoudrait d'autres problèmes, en fait. Je pense qu'il y a un manque d'équilibre dans ce monde, qui entraîne plein de problèmes. J'aimerais bien, à ma petite échelle, participer un peu à bouger ça, quoi.
Écoute, je suis d'autant plus heureuse que tu aies accepté cette interview, parce que je te confirme que moi, c'est exactement l'image que je m'étais faite de toi sans te connaître, c'est-à-dire, évidemment que pour vendre des t-shirts à 40€, bio, équitable, made in France, etc., il faut avoir grandi dans le Marais, il faut avoir eu pas d'autres préoccupations dans la vie que celle d'acheter des t-shirts éthiques, et je suis d'autant plus heureuse de pouvoir te tendre le micro pour que tu puisses déconstruire ce cliché. J'imagine que j'étais pas la seule à avoir ces préjugés sur toi.
Non, effectivement.
Merci beaucoup pour cette plongée dans le film de ta vie.
Merci.
Je t'invite sur la quatrième et avant-dernière partie de cette interview. Au pied du mur, on a tous et toutes rencontré des obstacles dans la vie. Est-ce que toi, il y a une épreuve qui t'a particulièrement marquée? Laquelle et pourquoi? Et si c'est quelque chose que tu vis avec, comment tu composes avec? C'est quelque chose avec lequel tu vis, cette phrase n'était pas dans l'ordre.
Ouais, mais t'inquiète, j'ai capté. C'est des choses assez perso, mais enfin, en gros, comme je te disais, j'ai eu une enfance assez difficile et en gros, j'ai eu un père qui était assez violent, d'où mon intérêt pour lutter contre les maltraitances des enfants. Et je pense que c'est un des trucs qui m'a posé le plus de problèmes après, parce que la violence, c'est... Bon, effectivement, il y a le problème sur le moment, mais il y a aussi toutes les conséquences que ça peut avoir. Et notamment sur la confiance en soi, sur le fait de réussir à être fier de soi, parce que quelles que soient les raisons qu'un adulte a de faire ça, même s'il n'y a pas de bonnes raisons, un enfant, il va forcément se dire qu'il est nul, que c'est de sa faute, que c'est lui qui a fait quelque chose, que lui, il n'est pas bien, que lui, il doit se cacher, que l'enfant pense que ça vient de lui, parce qu'on est en amour pour ses parents et ils peuvent pas nous faire de mal, quoi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on est fait en tant qu'humain. Et donc ça, c'est difficile parce que quand tu vis, alors maintenant c'est un truc que j'ai réparé avec l'aide de plein de gens aussi. Mais quand tu commences ta vie comme ça, forcément, ça a beaucoup de conséquences sur ce que tu l'estime que tu peux avoir de toi-même, en fait. Donc je pense que c'est ça le truc qui a été le plus difficile pour moi. J'ai eu pas mal d'épreuves, mais ça, je pense que ça a été un des trucs les plus difficiles, et ça a aussi pas mal façonné ma relation aux hommes. Alors j'aime pas trop parler de ça, parce que j'ai l'impression que les gens ils vont dire d'accord, mais elle est féministe juste parce qu'elle a été victime de violence, d'accord, en fait c'est pas une femme normale, entre guillemets. Du coup, tu vois, j'ai peur de cette espèce de cliché, Et mais tu vois, enfin, en plus quand t'as eu un père violent, justement, t'as tendance à te tourner vers des mecs plus vieux, plutôt dans le même style. On fait tous ça, et enfin, on se tourne tous vers quelqu'un qui ressemble à notre père ou à notre mère, Oedipe, tout ça, tout ça. Et donc j'ai eu ça aussi. Et à un moment dans ma vie, j'ai dû choisir d'arrêter ça, en fait. Mais c'était hyper intéressant parce que pour le coup, tu parlais de zone de confort tout à l'heure. Et donc je suis en couple hétérosexuel en ce moment, mais tu vois, j'ai rencontré à un moment ce mec-là, et j'ai dû choisir quelque chose qui n'était pas du tout confortable pour moi, en fait. J'ai dû choisir la gentillesse, en fait des choses qui sont un peu normales, hein, mais quand c'est pas ce que t'as vécu, bah tu te dis attends, mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il me veut, enfin c'est hyper inconfortable. Et en fait, je sentais au fond de moi qu'il fallait que j'aille vers cette direction, que c'était ça, et ça a beaucoup aidé, en fait, ce choix. Mais tu vois, il vient de moi, c'est moi qui ai décidé d'arrêter ça. Et évidemment, cette personne m'a beaucoup aidé, m'aide encore à réparer pas mal de choses, parce que tu te dis ok, bon, tout le monde n'est pas violent, et j'ai rencontré plein de personnes super après, plein d'hommes qui sont pas du tout violents, et voilà. Donc je ne pense pas que tous les hommes sont violents, il y a pas de souci. Mais voilà, donc ça m'a à la fois fait du mal sur plein de trucs, et à la fois ça m'a fait faire des choix aussi pour sortir de ça, quoi. Ça m'a appris qu'on pouvait sortir aussi, de zones dans lesquelles on n'est pas confortable, et faire d'une zone d'inconfort une zone de confort.
Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans la vie ?
Je pense qu'un des meilleurs conseils qu'on m'a donné, c'est de faire. Je pense que c'est vraiment hyper primordial, et que c'est pas un truc qu'on nous apprend tant que ça, en fait. Quand tu réfléchis à l'école, pas vraiment. On est vachement dans la théorie, on n'est pas trop dans la pratique. Et on a peur de faire. Enfin, moi, j'ai plus peur, mais j'avais peur de faire. On a peur de faire des choses qu'on ne sait pas faire. On a peur de se planter. Et donc, on n'est pas assez dans l'action. Alors qu'au final, quand on fait, il peut quasiment jamais rien se passer de grave, parce qu'on contrôle les choses, enfin, plus ou moins. Mais on est dans l'action, donc on apprend. Et faire, c'est vraiment génial, quoi. C'est mon activité préférée.
Est-ce qu'il y a une critique ou un reproche que tu es fière d'avoir reçu ?
Peut-être le fait d'être trop rebelle. je pense que c'est un reproche qu'on m'a pas mal fait, notamment les profs et tout ça. Et au final, je suis fière de m'être rebellée contre plein de choses. Et je continuerai.
Claire, on arrive sur la dernière partie de cette interview. Donc j'appelle ça pile ou face, parce que je vais te faire une série de propositions en proposant un choix A ou B. Je sais qu'on est tous un peu des deux, mais je te demande de choisir. T'as le droit de me... Si vraiment tu peux pas choisir, t'as le droit de passer la question, mais je préférerais que tu m'expliques pourquoi. Ok,
on va essayer ça.
En règle générale, dans la vie, tu es plutôt optimiste ou pessimiste ?
Optimiste. Je suis quasi jamais pessimiste.
En règle générale, dans la vie, tu es plutôt anxieuse ou détendue ?
Anxieuse.
En règle générale, dans la vie, tu es plutôt nostalgique du passé ou excitée par l'inconnu de l'avenir ?
Je dirais quand même plutôt excitée par l'avenir.
En règle générale, dans la vie, tu es plutôt amatrice des foules ou des moments de solitude ?
Moments de solitude, complètement agoraphobe.
En règle générale, dans la vie, tu es plutôt team profiter de la vie ou team travailler maintenant pour profiter de demain ?
Team profiter de la vie. Mon travail ne me plaît, donc j'ai pas trop ce problème.
En règle générale, dans la vie, tu es plutôt confiante ou prudente ?
Confiante.
En règle générale, dans la vie, tu es plutôt organisée ou bordélique ?
Complètement bordélique. C'est une cata.
En règle générale, dans la vie, tu es plutôt perfectionniste ou pragmatique ?
Je suis plutôt perfectionniste, ce qui est pas toujours bien.
Merci beaucoup, Claire. C'était vraiment un plaisir de faire ta connaissance à travers cet entretien.
Mais avec plaisir.
Où est-ce que j'envoie toutes les personnes qui ne connaîtraient pas encore ton travail et qui désormais voudraient ne plus rien rater de tout ce que tu fais ?
Si elles veulent connaître, en savoir plus sur Meuf, nous on communique principalement sur Instagram, donc @meufparis. Moi j'ai un Insta perso où je parle plus, j'écris des poèmes, des choses comme ça, donc voilà, si vous voulez voir mes écrits, c'est Claire mais pas toujours, comme on est plusieurs dans ma tête, j'aimais bien ce pseudo. Et voilà, après, ouais, c'est à peu près ça, c'est à peu près les deux canaux.
Je rajouterai également un lien vers la boutique en ligne de,
oui,
de Meuf Paris.
Oui, tu fais mieux la pub que moi, tu vois, je suis vraiment pas dans la surconsommation.
Je n'hésiterai pas, de toute façon, ce sera mentionné dans l'introduction et sur notre compte Instagram aussi, sur Tout Conquérir le Monde.
Trop
merci
cool.
Beaucoup, Claire.
Bah, merci à toi. Merci.
La mafia.
Ouais, à bientôt.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet entretien jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le réaliser. Les Impertinentes est un podcast d'interview parcours portrait réalisé par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur les flux de Tuto Conquérir le Monde, Activiste et Les Impertinentes. Vous pouvez interagir avec moi sur Instagram à travers le compte @conquérir.le.monde ou sur mon compte @clem_podoc. Je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur Patreon, c'est www.patreon.com/clembodoc. Moins cher et tout aussi précieux que l'argent, vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast en le partageant autour de vous, en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire positif. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci beaucoup pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à très vite.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.